L'hygiène est aussi ancienne que la civilisation. Mais la notion n'a cessé d'évoluer au fil des époques. Elle a fait l'objet de superstitions et d'erreurs tragiques. Précepte ou signe extérieur de richesse, elle a toujours constitué une marque sociale. Elle demeure intimement liée aux questions de pouvoir et de contrôle des populations. Voici l'histoire de l'hygiène à travers les âges, l'épopée d'un art de la prévention qui a sauvé d'innombrables vies et continue de le faire. En 1780, Paris compte plus de 500 000 habitants. C'est alors la ville la plus peuplée d'Europe. Dans les rues, on entend crier « Gare à l'eau !» Mais ce n'est pas l'eau qu'il faut craindre, c'est le contenu des pots de chambre. Les restes et les ordures sont jetés aux animaux domestiques. Dans cet environnement, les germes prolifèrent, agents pathogènes causant de terribles épidémies. L'Europe a pourtant connu de meilleures conditions d'hygiène collective. C'était 2000 ans plus tôt. La notion et le mot même d'hygiène nous viennent de la Grèce antique. Hygieia est la déesse de la santé. Par extension, l'hygiène désigne l'art de préserver la santé. Les huiles et onguents parfumés font partie du quotidien des hommes libres, de même que les bains, les massages et l'exercice physique. Plus tard, les conquérants de la Grèce, les Romains, attachent une grande importance à cet art. Ils s'inspirent de la palestre grecque pour bâtir des palais dédiés à la santé publique, les thermes. Le puissant foyer de l'hypocauste permet de chauffer le sol et l'eau. Les thermes sont ouverts à tous les Romains, qu'ils soient riches ou pauvres. Les ablutions sont l'un des rituels immuables du quotidien. Cette pratique qui allie plaisir et loisir préfigure les spas d'aujourd'hui. La consommation en eau des Romains est énorme. Elle atteint 450 litres par personne et par jour, contre 148 en moyenne aujourd'hui en France. Rome compte alors 1 million d'habitants. 11 aqueducs acheminent l'eau captée dans les montagnes environnantes jusqu'à la ville. Nombre d'entre eux sont souterrains. L'eau reste ainsi fraîche en été et ne gèle pas en hiver. Certains sont encore en activité, comme celui de l'Aqua Virgo, qui alimente la célèbre fontaine de Trévi. L'eau est réservée à des usages spécifiques en fonction de sa qualité. L'eau non potable est destinée aux innombrables latrines publiques. Ces lieux d'aisance ont une dimension sociale. Ici, pas d'intimité. Le passage aux latrines est l'occasion de s'échanger les dernières nouvelles. Il est aussi courant d'y conclure des affaires. Pour s'essuyer, on utilise un tersorium, une éponge fixée sur un bâton que l'on passe à la personne suivante.
Il existe bien des soins de base qu'on peut qualifier d'hygiène publique et corporelle. Mais ce n'est pas comparable à nos standards sanitaires actuels, ça n'a rien à voir. Les sources écrites et matérielles de l'époque romaine attestent l'existence de nombreuses maladies qu'on peut certainement qualifier d'infectieuses en gardant une certaine prudence. Des maladies dont la propagation est due au manque de propreté. Donc tout cela n'était pas à proprement parler hygiénique.
Au 1er siècle avant notre ère, bien avant l'invention du microscope, le savant Varron a l'intuition de l'existence de bactéries ou de virus.
Il y a certaines créatures minuscules que les yeux ne peuvent voir, qui flottent dans l'air et pénètrent dans l'organisme par la bouche et le nez et causent de graves maladies.
Pour prévenir les maladies et en guérir, les Romains sacrifient à des dieux empruntés au panthéon grec. Hygie, la déesse de la santé, Panacée, la déesse des remèdes, et Esculape, le dieu de la médecine. Les Romains ne se contentent pas d'acheminer l'eau, ils savent l'évacuer tout aussi efficacement. Les aqueducs se doublent d'un réseau d'égouts collecteurs, dont le plus grand et le plus ancien est sans conteste la Cloaca Maxima. Les travaux de ce canal ont commencé vers l'an 600 avant notre ère, et il est encore en partie en service aujourd'hui. Ce modèle se répand dans tout l'Empire romain. Les villes des différentes provinces sont à leur tour équipées de conduites d'eau et d'égouts.
L'ingénierie hydraulique romaine a produit des ouvrages monumentaux qui ont rempli leurs fonctions pendant de nombreux siècles. Et leurs vestiges restent encore très impressionnants aujourd'hui. Il n'est pas exagéré de dire qu'on a atteint à ce moment-là un haut degré de civilisation, qui a perduré jusque dans l'Antiquité tardive. Mais ensuite, il y a eu une rupture de ce point de vue. Pourquoi ? Parce que la culture matérielle a été détruite au moment de ce qu'on a appelé les invasions barbares, avec leur cortège de bouleversements politiques et militaires. Quelque chose s'est perdu à ce moment-là.
Il existe pourtant des lieux où ce savoir antique est préservé et mis en pratique. Dans les monastères du Moyen Âge, les soins du corps complètent ceux de l'âme. La journée est rythmée par les prières et le travail manuel, mais aussi par les ablutions. Des ouvrages hydrauliques alimentent les communautés religieuses en eau pure. La règle de Saint-Benoît, père des moines d'Occident, prescrit deux bains annuels, l'un à Noël et l'autre à Pâques.
Au Moyen Âge, les monastères remplissent plusieurs fonctions. Ce sont des acteurs économiques, des centres religieux bien sûr, et enfin des lieux d'enseignement. Le savoir des anciens est en partie conservé dans les bibliothèques monastiques sous forme de manuscrits en latin. Ces écrits sont préservés, mais aussi lus et copiés, donc diffusés. Les connaissances en matière de médecine, et notamment les règles d'hygiène, figurent en bonne place dans ce corpus savant. Il est donc logique qu'elles soient mises en pratique dans les monastères. Mais il faut se rendre compte que ce sont des îlots dans un environnement où les normes d'hygiène de l'Antiquité ont complètement disparu.
Jolie place de marché, pignons bien entretenus et ruelles photogéniques, les vieilles villes sont aujourd'hui de véritables attractions touristiques. Mais à quoi ressemblait leur quotidien au Moyen Âge ? L'air de la ville rend libre, dit un proverbe allemand du Moyen Âge. En réalité, il rend malade. Les rues à cette époque sont étroites, encombrées et sales. L'expression « balayer devant sa porte » vient également du Moyen Âge. Le bétail vit dans les maisons et se promène en liberté. C'est l'ère d'état d'immondice et de fumier.
Les latrines sont la plupart du temps à l'extérieur de la maison, au-dessus d'une fosse. C'est à la fois un lieu d'aisance et un vide ordure, où l'on trouve excréments, déchets de cuisine et rebuts de l'activité artisanale. Ces fosses sont vidangées régulièrement avant qu'elles ne débordent. Les vidangeurs des villes emportent leur contenu à la campagne, à la grande satisfaction des paysans, qui trouvent là un excellent engrais pour leurs champs. Les latrines apparaissent vers la fin du Moyen Âge dans les châteaux et les maisons bourgeoises. Mais là aussi, petites et grosses commissions tombent dans des fosses, des cloaques à ciel ouvert entre les bâtisses. La nappe phréatique est souvent contaminée par les matières fécales et les ordures, souillant ainsi l'eau des puits. L'eau étant suspecte, on lui préfère donc la bière ou le vin. Simple question de survie.
Pourtant, l'hygiène corporelle a toute sa place au Moyen Âge. Se laver les mains fait partie des règles élémentaires de la courtoisie. Ces préceptes médicaux constituent la diététique au sens où l'emploie Ambroise Paré, l'hygiène de vie. L'école de médecine de Salernes diffuse ainsi vers 1060 un régime sanitaire, véritable guide pratique qui compile de nombreux conseils d'hygiène. On y apprend qu'une nourriture saine et des soins corporels réguliers favorisent une belle apparence. C'est l'assurance de faire un beau mariage. Les fronts hauts et bombés séduisent. On s'épile donc la ligne des cheveux, mais aussi les sourcils. On se brosse les dents avec des sachets de lin remplis d'une poudre de marbre, de racines et de bois de serre brûlé. Les bains de bouche à base de vin et d'extrait de racines parfument la laine. Accessoirement, ils ont un effet antibactérien. Contre les poux, il est recommandé de se peigner les cheveux tous les jours. À partir du XIIe siècle, les étuves ou bains publics sont en plein essor. Il faut dire qu'on ne les fréquente pas uniquement pour se laver.
Tous ceux qui veulent faire l'amour, se marier ou s'adonner à d'autres plaisirs trouvent ici ce qu'ils cherchent.
La promiscuité n'a pas que de bons côtés. À partir de la fin du XVe siècle, une maladie honteuse se répand comme une traînée de poudre, la syphilis. Ce fléau souvent fatal se propage par les rapports sexuels. Les villes sont des foyers de maladies infectieuses comme le typhus, la variole, la fièvre typhoïde et la plus redoutée de toutes, la lèpre. Les personnes infectées par le bacille de Hansen sont défigurées. La maladie est considérée comme un châtiment divin. Les lépreux sont chassés des centres urbains et doivent vivre isolés dans des léproseries.
Tout au long du Moyen-Âge, la mortalité est restée plus élevée en ville qu'à la campagne. C'était un fait déjà bien connu à l'époque. La ville consomme la vie humaine.
Mais le plus grand fléau du Moyen-Âge, c'est la peste. Un épisode particulièrement dramatique de cette maladie est encore bien connu. À partir de 1347, Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste noire, se répand dans toute l'Europe. En l'espace de 5 ans, elle fait 25 millions de victimes, entre un tiers et la moitié de la population européenne. Les médecins suivent alors la doctrine élaborée par Hippocrate et Galien.
Dans la théorie des humeurs, l'air putride, les miasmes, sont considérés comme les agents déterminants de la maladie. Ces miasmes entrent dans le corps par l'inhalation ou par l'absorption. Ils sont à l'origine d'une pourriture interne qui provoque la rupture des équilibres corporels. C'est ainsi qu'on voit la peste à l'époque.
On ignore à ce stade que ce sont les puces et les rats infectés qui transmettent la maladie à l'homme. Pour neutraliser les miasmes, les médecins recommandent de brûler des substances à l'odeur capiteuse comme la résine ou le soufre. Le verbe empester a d'ailleurs conservé la mémoire d'une puanteur associée à la peste. L'ampleur de cette tragédie individuelle et collective dépasse l'imagination. L'Europe se vide de sa population. Comment lutter contre ce fléau ?
On applique une solution connue depuis toujours, qui est d'isoler les personnes infectées, de les séquestrer, de les mettre à l'écart pour les tenir aussi éloignées que possible de la société et des gens en bonne santé.